Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré!
Ici Hélène.
Et Mélanie. Hello.
Hello.
Je m'excuse de ma voix nasillarde d'aujourd'hui. J'ai la grippe.
Ouais.
Comme à peu près le trois quarts du monde en ce moment.
Oui.
Toi qui viens de t'en sortir avec tes deux enfants malades et ton chum malade. Et voilà. Donc, les parents qui ont deux enfants qui vont en garderie me comprennent. Donc, désolée, je vais essayer de que ça sonne pas trop nasillard, mon enfant. Gros épisode aujourd'hui.
Ouais.
J'ai travaillé très, très fort sur Monica la mitraille aujourd'hui. Je peux le dire parce qu'ils ont cliqué dessus. Puis
oui,
surtout quoi.
Ils savent c'est quoi. Ouais.
Ce cas nous a été suggéré par plusieurs personnes, dont il y a Myriam qui nous écrit via notre site web. Merci beaucoup, Myriam. Et Alexandra aussi qui nous écrit sur le site web aussi. Et je vais vous lire ce qu'Alexandra a écrit parce qu'elle a un petit potin sur le fils de Monica la mitraille.
OK.
Donc, okay, son message...
OK, tu nous lis avant.
Ouais.
Ouais? OK.
Ben, ouais. Oui.
Oui, OK.
Ça, on dirait que tu me fais hésiter. Elle dit « Allô les binges, je vous binge au travail depuis quelques semaines. Merci beaucoup, c'est très bon. D'ailleurs, shout-out à ma collègue Myriam qui m'a parlé de vous. Allô Myriam. J'ai passé une partie de mon adolescence à la chute, lol. » Je sais pas pourquoi elle écrit « lol ».
Ben, parce qu'il y a plein de choses qui se passent à la chute, selon ce qu'on a appris.
« Donc, j'ai bien aimé votre spécial, mais ça m'a surpris que vous ne parliez pas d'un cas qui nous a vraiment marqué en 2000. » C'est vrai que ça brasse à la chute et c'est assez ghetto. On avait la troisième pire polyvalente du Québec à l'époque.
Ooh.
J'étais en appartement à l'âge de 15 ans et mon coloc à peine plus âgé vendait des substances pour les motards et son boss s'appelait Gilles, qui était le fils de Monica alias La Mitraille.
Oh.
Une autre histoire assez intense du Québec qui pourrait peut-être vous inspirer. Petite anecdote, quand le film est sorti au cinéma, Gilles avait distribué des billets pour la première à sa gang. Donc, je me suis retrouvée au cinéma Saint-Eustache au milieu de motards puis de leurs pitounes, lol. Du haut de mes 15 ans, j'étais assez impressionnée. D'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai découvert que Gilles est en prison. Gilles, en prison, s'est découvert un talent d'écrivain et qu'il fait régulièrement des entrevues et des podcasts. Quand même, il s'en est bien sorti malgré son début de vie chaotique. Et quand elle m'a écrit, j'ai répondu « Merci, Alexandra », parce que j'avais comme pas pensé de faire Monica la mitraille et, en tout cas, je veux pas trop en dire, mais et compagnie. T'sais, genre, ça s'arrête pas juste là.
OK, OK.
L'histoire de Monica la mitraille. Fait que bref.
Vas-y, lance-toi. Je suis prête.
Donc, j'ai beaucoup de sources pour cet épisode-là, dont le livre « Souvenirs de Monica » qui a été republié en 2004 sous Monica la mitraille de Georges Hébert Germain, qui est assez controversé parce que ce livre-là, dans le fond, Georges Hébert Germain, qui est un écrivain très populaire au Québec, qui est décédé aujourd'hui, a connu Monica et sa famille, puis habitait où elle habitait quand elle était jeune. Donc, elle connaît l'univers, mais le livre est quand même... Il y a beaucoup de parties fictives, apparemment. Et aussi, ils n'utilisent pas les vrais noms parce que, par exemple, les sœurs de Monica n'ont pas donné les droits à leur histoire. Donc, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, je me fie pas entièrement à ce livre-là, mais il y a des petits détails que je vais mentionner. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je vais quand même les mentionner puis je vais vous le dire. Qu'est-ce qui vient du livre?
OK.
Donc, apprendre avec un grain de sel. Aussi, j'ai écouté le film Monica la mitraille. Il y a le documentaire aussi que je vais parler beaucoup, Maman la mitraille, qui est sorti il y a 2 ans, je crois, en 2021, avec Gilles, justement.
OK.
Qui parle et qui... Je vous conseille d'aller l'écouter, même après l'épisode, si vous avez aimé. Moi, je vous conseille d'aller l'écouter, c'est super bon.
Il est sur YouTube?
Il est sur Illico.
Illico.
Vidéotron. J'ai volé le mot de passe de mes parents.
C'est ça, j'étais comme, il n'y a personne qui a Illico à part les parents.
Ben, les gens de Québec.
Ouais.
Les baby boomers.
Les baby boomers,
Il y a WhatsApp Podcast qui a fait une entrevue avec Gilles aussi. Et il y a Bernard Drinville en 2004 qui a accordé une entrevue à la sœur de Monica, Rita, qui est vraiment intéressante. Il y a plein d'articles des journaux, Montréal, La Presse, les archives, La Banque, Name It. Je les ai toutes écoutées, je les ai toutes lues. Écoute, il y a du stock. L'histoire de Monica, je vous préviens, il n'y a pas un épisode de podcast, un film, un article de journal, le livre, il n'y a rien qui est pareil. Tous les détails sont différents. J'ai essayé de d'écrire tout ce que j'ai trouvé du mieux que j'ai pu, de prendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Même les noms de ses frères et sœurs, c'est vraiment pas clair.
Ah ouais.
C'est difficile. Écoutez, encore là, apprendre avec un grain de sel.
Voilà, ce sera la version crime de Bin.
Voilà. Il est 11h du matin, le mardi 19 septembre 1967. La Caisse populaire Saint-Vital de Montréal-Nord, au coin de la rue Saint-Vital et du boulevard Henri-Bourassa, vient d'être cambriolée. Monica Proietti, mieux connue sous le nom de Monica la Mitraille, et les frères Robert et Gérard Lelièvre sortent de l'établissement un sac de toile bleue contenant exactement 3 082 $ comptant dans les mains. On entend les sirènes de plusieurs voitures de police qui se rapprochent. Les trois voleurs, tous cagoulés, sautent dans un Chrysler beige volé et quittent les lieux. Monica est derrière le volant. Elle se dirige à toute vitesse sur Henri Bourassa en direction est. Elle croise plusieurs voitures de police qui s'en viennent à contresens. Elle tourne à droite sur la rue London vers le sud. Elle se rend sur la rue Martial, où leur voiture de suite, le getaway car, est stationnée. Problème. Impossible de changer de voiture parce que le véhicule est entouré de policiers. Oups. Comme s'ils savaient qu'ils s'en venaient.
Oh.
Bref, les cambrioleurs doivent continuer leur cavale, mais ils doivent absolument se débarrasser du Chrysler qui est maintenant connu tous les policiers. Quoi faire? Monica arrête la voiture un peu plus loin. Elle et les frères Lelièvre sortent et partent à courir. Il y a des voitures de police partout. On leur tire dessus à droite, à gauche. Des agents de police leur courent après. Robert part dans une direction, Gérald et Monica dans l'autre. Dans une ruelle, Gérald et Monica croisent un homme qui s'apprête à embarquer dans sa voiture. Gérald le frappe au visage, puis Monica prend ses clés. Il vole sa voiture. Monica conduit à 130 km/h sur le boulevard Pinneuf en direction sud. À l'intersection de la rue Dickens, qu'on appelle aujourd'hui Villeray, Monica percute de plein fouet un autobus de ville.
Mmh.
Elle est gravement blessée. Gérard, lui, semble intact. Il sort de la voiture puis s'enfuit, laissant derrière sa complice dans une mare de sang. Fin de l'introduction.
C'est tout?
Oui.
C'est dans ma casse.
Parce que je veux te parler un peu de Montréal dans les années 50-60. C'est assez élevé.
Okay.
C'est une période mouvementée puis particulièrement violente. On est en pleine révolution tranquille. L'Expo 67 bat son plein. Montréal est alors considéré comme la plaque tournante du crime organisé en Amérique du Nord à cause des liens entre les mafias montréalaises puis new-yorkaises. D'ailleurs, si vous voulez aller écouter l'épisode numéro 44 intitulé « Le clan du bois », je raconte les débuts de la mafia montréalaise. Donc voilà. Fin de la plug. Le trafic de drogue, les jeux de hasard puis la prostitution sont au sommet des activités économiques de la ville de Montréal. On dit que c'est la période où il y a le plus de vols à main armée. Il y a à peu près une fusillade, il y a en moyenne une fusillade qui explose par semaine. Ce qui est quand même intense. Les policiers sont armés de mitraillettes puis ils ont apparemment la gâchette assez facile. On dit aussi qu'on compte environ 40 banques qui sont cambriolées par jour partout dans la ville.
Hein?
Des banques et des caisses populaires puis des guichets, genre. C'est lent.
Hein? C'est dommage fou.
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, Montréal et la Rive-Sud accueillent des centaines de militaires puis de marins à chaque mois. Il y a beaucoup de mouvements, de va-et-vient. Les entreprises locales fonctionnent à plein régime. Puis quand je parle des entreprises, entre guillemets, je veux majoritairement dire les bars, les maisons de jeu puis les maisons closes. Bref, tout ça finit par créer ce qu'on appelle à l'époque le « Red Light District ». Le Red Light District, c'est délimité par le boulevard René-Lévesque au sud, la rue Sherbrooke au nord, la rue Bleury à l'ouest, puis la rue Saint-Denis à l'est. L'épicentre du quartier, c'est au coin de Sainte-Catherine et de Saint-Laurent. Saint-Laurent, on appelle alors...
La Main.
La Main. Vous aurez compris que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier des spectacles.
Oui.
C'est un peu plus bobo.
Il reste encore quelques bandes de danseuses, mais...
Ouais, mais... Oui, j'en parle d'ailleurs. Montréal est connue comme la ville du vice, puis il y a une réputation internationale de ville de party. Même le légendaire, je savais pas, Frank Sinatra, il a fait une résidence en 1953 au cabaret Chez Paris.
Hein?
Chez Paris, qui existe toujours aujourd'hui, et non comme bar de danseuse, mais comme bar d'effeuilleuse, selon le site web de la ville de Montréal. Où j'ai déjà vu Hélène se défeuiller, je crois.
C'était au Café Cléopâtre.
Oh, c'est
quand
pas
il y avait des soirées strip karaoké.
Oui, Hélène, elle s'était effeuillée.
Un petit peu.
Un petit peu. Pas complètement. C'était hot. C'était chaud. Bref, À l'époque, le Red Light District, dans le petit quadrilatère que je viens de vous démilter, compte plus de 50 bars de danseuses puis 80 maisons closes. Je vous fais un cours sans une maison close? Non, c'est pas... on sait ce que c'est, OK, on s'entend. J'ai pas besoin de maison de prostitution avec des chambres. Maison de chambre? C'est la même
un
chose.
Un bordel?
Ça. C'est moi qui cherche des synonymes polis. Donc, vous pouvez vous en douter, mais la situation des Montréalais qui habitent le quartier est assez difficile. On parle d'extrême pauvreté, de taudis, surtout dans une petite ruelle du nom de Le Duc, située entre Ontario et Maisonneuve, qui se prend par Saint-Dominique, pour ceux qui connaissent Montréal. Dans cette ruelle habitent 34 familles qui vivent sans eau chaude, même sans bain, avec des infestations de souris, de rats et de coquerelles. Par contre, dans les archives, quand on lit des témoignages de gens qui habitent là, ce qui ressort dans la vie de la ruelle, Le Duc, c'est pas l'extrême pauvreté, mais l'entraide puis le respect entre les gens qui y habitent là. Par exemple, il y a certains qui cuisinent pour des familles qui en ont plus besoin, d'autres font le lavage de leurs voisins pour $1. Mm-hmm. T'sais, ils s'entraident vraiment beaucoup. À l'époque, le gouvernement a comme pas vraiment d'intérêt à aider les gens dans le besoin dans la ville. Donc, ils s'en foutent un peu de cette ruelle, on va se dire. Mm-hmm. C'est ça la réalité.
Ouais, le filet social n'était pas ce qu'il est aujourd'hui.
Non. En 1953, l'enquête Caron sort un rapport concernant le crime organisé à Montréal et la police corrompue. À la suite de cette enquête, en 1954, Jean Drapeau est élu comme maire de Montréal. Sa mission, remettre de l'ordre dans la ville en réduisant la criminalité. Comme on peut se l'imaginer, son ménage commence dans le Red Light District, mm-hmm. plus précisément dans la ruelle Le Duc.
Ah oui, OK.
Il a comme plan de la raser, complètement. Puis il veut y construire les habitations Jeanne-Mance, qui est un complexe d'habitations à loyer modique, un HLM, qui existe toujours aujourd'hui. Mm. Fait que tu comprendras que ça a marché.
Ça a marché, oui.
Il y a une équipe qui est mandatée par la ville pour inventorier le quadrilatère formé par les rues Ontario, de Bullion, Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Les membres de cette équipe y ont accès à tout. Ils peuvent entrer dans les logements, les maisons, les magasins, les restaurants, les bars, les backstore, ils peuvent aller n'importe où. Ils font l'inventaire du nombre de personnes qu'il y a dans chaque bâtisse. Il va sans dire que tout le monde les haït. Ouais. Dans la rue, on les appelle les morpions. Puis dans les médias, on les appelle des héros. Ouais. Perspective. Ouais. Donc, voici le portrait de la ville de Montréal dans les années 50 et 60. Okay. Et la raison pourquoi je vous parle particulièrement de la ruelle Le Duc, c'est parce que la famille Proietti, donc notre chère Monica, elle faisait partie des 34 familles qui habitaient là. Donc, d'où viennent les Proietti? Parce qu'ils sont italiens.
Oui, ça sonne italien.
C'est très italien. Oui. Giovanni Proietti, 27 ans, puis sa femme Angela Maria, 16 ans.
OK.
On est en 1905, OK? Oui,
c'est normal. Arrive à Montréal. Maria, 16 ans, j'imagine.
C'est ça. Arrive à Montréal en 1905. Beaucoup d'endroits disent 1910. Sur le bateau Cortona, en provenance de Naples, d'Italie. Le couple s'installe dans le bas de la ville, dans les quartiers ouvriers, et ils ont beaucoup d'enfants. Parmi ceux-ci, on compte un fils du nom de Roméo Proietti. Roméo se marie, lui, à une Québécoise du nom de Fleurette Papineau. Ensemble, ils ont 9 enfants.
Fleurette!
C'est cute! Ils ont 9 enfants. Le 25 février 1940, Roméo et Fleurette ont une fille qui s'appelle... Monica. Ou Monique. Des fois, on l'appelle Monica, des fois, on l'appelle Monique.
OK.
Tu vois, c'est difficile, cette histoire.
Il n'y a rien de sûr, là-dedans.
Non. Dans le film, on l'appelle Monique.
Ah.
Ouais. Bon. Comme la version italienne, c'est Monica, puis la version québécoise, c'est Monique.
Ouais, c'est ça.
C'est bon. Donc, Monica grandit sur la ruelle Le Duc, comme je l'ai mentionné. Monica est décrite comme petite, délicate et magnifique. Elle est aventurière, toujours prête à essayer quelque chose de nouveau, en plus d'avoir des nerfs d'acier. On dit qu'elle a du chien puis qu'elle est extrêmement sociable. Dès l'adolescence, Monica a juste un désir, se sortir de la misère avec sa famille. Dès l'âge de 13 ans, elle commence à se prostituer. On dit même qu'elle accepte de coucher avec des femmes, pour de l'argent bien sûr, mais aussi pour essayer quelque chose de nouveau, ce qui est quand même rare à l'époque.
Quand même, est-ce que c'est triste? Pour te sortir de la misère, il faut que tu fasses ça.
Ouais. Pourquoi Monica commence-t-elle si jeune comme travailleuse du sexe, tu me demanderas? À cause de sa grand-mère.
Ah!
Angela Maria Proietti, alias Mama Proietti. Donc, Mama Proietti est la gouvernante non seulement de la famille Proietti, mais aussi du quartier.
Ah, OK.
Tout le monde la connaît.
C'est la matrone du quartier.
Ah ouais. Tout le monde la connaît, tout le monde la craint. Sa grosse voix grave, ses cheveux gris montés en chignon, puis ses grosses lunettes lui donnent un air sévère et très autoritaire. Elle a plusieurs enfants, dont une seule fille. Elle héberge aussi apparemment une douzaine de jeunes garçons qui n'ont pas de foyer pour 50 cents la nuit. Ils doivent cependant suivre des règles très strictes de la maison, dont aucun contact avec sa fille. Pas d'alcool, pas de cigarette, on ne jure pas, puis chacun a droit à un bain par semaine. Pas plus, pas moins. Faut savoir que Mama Proietti, c'est une des seules maisons à avoir un bain dans le quartier. Ooh. Ça a l'air que c'est dans le livre, je sais pas si c'est vrai, il dit que c'est deux de ses fils qui ont trouvé un bain et qui l'ont ramené à la maison, qui l'ont connecté aux égouts. Mais c'est comme, c'est pas connecté à l'aqueduc, fait qu'il faut que tu le remplisses à la main.
OK, ouais. Bref.
À la fin des années 40, Mama Proietti est dans la misère. Son mari est mort dans un accident de travail, puis elle doit s'occuper de ses enfants toute seule. Dans le livre de Georges Bergermain, il dit, et je cite, « Elle ne croyait pas au bienfait de l'école, une invention des Français qu'elle considérait comme des impies. Elle était persuadée que son fils aîné avait perdu son âme à l'école, où il était resté jusqu'à 11e année, beaucoup trop longtemps selon elle. » Fin de la citation.
Okay.
Fait que tu vois, ça donne un peu l'idée de ce qu'elle pensait de l'école. Ouais. Donc, pas fan de l'école, Mama Proietti décide de diriger sa propre école. On appelle l'école du crime pour les enfants.
Mais voyons!
Elle enseigne... Non, enseigne, c'est un grand mot, là. aux enfants du quartier, puis même à ses propres petits-enfants, tous âgés à peu près entre 17 et 20 ans. Quelles matières sont enseignées à l'école du crime, tu me demanderas?
Les cambriolages, oui. L'escroquerie...
Oui. Comment ouvrir des coffres-forts, comment s'introduire sans bruit dans une maison, comment faire des vols et comment se prostituer avec succès.
Wow!
Toutes des matières excellentes. On dit même que lorsque ses élèves, entre guillemets, masculins, effectuent un vol réussi, ils sont récompensés soit avec un peu d'argent, soit avec des filles de leur âge.
OK. Tabarouette, hey, c'est fucked up!
Puis ça, c'est dans beaucoup de... C'est vrai, là. C'est ça, l'école du crime de Mama Proietti. C'est aïe, it's aïe. A thing. C'est vrai. C'est pas le livre, c'est pas inventé. Mm-hmm. C'est... Donc, Monica débute sa carrière de criminelle.
Mm-hmm.
Elle commence en ayant comme rôle de détourner l'attention des policiers pendant que les autres de sa gang font des vols. Donc, okay. Elle commence quand même doucement. En 1952, Mama Proietti est arrêtée, puis elle est reconnue coupable d'extorquer des enfants. elle est incarcérée à la prison de Kingston. Après le départ de Mama Proietti, là, ça va pas.
Ouais.
La mère de Monica arrive pas à faire vivre sa famille, puis son mari est introuvable. On dit apparemment que le père de Monica passait ses nuits avec sa maîtresse, qui était une jeune... Dans le livre, c'est une liseuse de bonne aventure.
Ah.
Apparemment qu'elle était vraiment plus jeune que lui aussi. C'était une amie de Monica. Mais ça, c'est dans le livre, donc je ne sais pas si...
Okay.
À 15 ans, en tant qu'aînée de la famille, Monica se sent obligée d'aider. Donc, elle et son frère de 14 ans commencent à voler des vêtements puis de la nourriture pour pouvoir habiller puis nourrir leurs frères et sœurs. Monica entre aussi, à ce moment-là, plus profondément dans le monde de la prostitution. Donc, elle a officiellement un pimp.
OK.
Et tout. On dit aussi que... Je sais pas si c'est vrai encore, mais qu'elle possède une clé universelle qui lui permet de voler des voitures facilement, puis elle revend certaines parties pour ramasser des sous. Bref, elle tente de gagner de l'argent du mieux qu'elle peut, dans le but d'aider sa famille. En 1956, dans le livre, il dit c'est l'été de Love Me Tender. Je trouvais ça cute. Quand Love Me Tender de Elvis Presley est sorti, c'est en 1956. Monica a fait de plus en plus d'argent, puis elle prend l'habitude de venir en aide à ses voisins, surtout aux femmes qui élèvent seules leurs enfants. Elle est beaucoup vue dans le quartier comme la Robin des Bois du quartier. Elle leur donne de l'argent, des vêtements, puis des jouets. Elle est donc bien appréciée dans la ruelle Le Duc, mais la situation change lorsqu'elle rencontre son premier mari, Anthony Smith. Anthony Smith, c'est un gangster d'origine écossaise qui est spécialisé dans l'ouverture des coffres-forts.
Wow.
Un turn-on.
Ben oui, clairement!
Il est venu s'installer à Montréal, où il est désormais bien connu des policiers, on s'entend. Monica rencontre Anthony dans le cadre de son travail. Je n'irai pas dans les détails. Elle a alors 17 ans, puis Anthony en a 32 ou 33. Pas sûr. Okay. L'anglophone tombe sous le charme de la belle Monica. Il se marie quelques mois plus tard, puis ont deux enfants, Anthony Junior et Ginette.
Oh.
Anthony, papa, donc Anthony Senior, a une très mauvaise influence sur Monica. C'est lui qui lui montre vraiment les dessous du métier de cambrioleur de banque. Jusqu'à maintenant, Monica avait juste fait des petits vols, mais avec Anthony, les vols y prennent beaucoup d'ampleur.
Mm-hmm.
Monica est éperdument amoureuse, pas seulement de son mari, mais aussi de l'adrénaline que lui procure leur vie de criminelle. Elle vit le parfait bonheur jusqu'au 3 février 1958. Oh non. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui arrive?
Dans la nuit du 2 au 3 février 1958, dans la maison des Proietti sur la ruelle Le Duc, il y a un gros incendie qui éclate. Puisque les logements sont construits en bois, le feu grandit vraiment rapidement et malheureusement, la mère de Monica puis 4 de ses frères et sœurs périssent dans l'incendie.
Ah non!
Donc, il y a Marcello, 8 ans, Giovanni, 6 ans, Ginette, 4 ans et Michel, 8 mois, ses frères et sœurs, puis Florette, sa maman, qui perd la vie dans l'incendie.
Mon Dieu, c'est non maîtrise.
Le père de Monica, qui était avec sa maîtresse cette nuit-là, n'était pas là. Et il ne viendra pas vraiment s'occuper de ses enfants restants, qui sont toujours en vie. Donc, Monica et son frère, ils renient leur père, ils ne veulent plus jamais le voir.
Mm-hmm.
Puis, ils ne step up parce qu'il faut qu'ils s'occupent de leur famille. Donc, Monica, alors âgée de 18 ans, elle prend le rôle de mère puis s'occupe des membres de sa famille qui restent. Sa sœur de 13 ans, c'est vraiment triste, est brûlée au troisième degré sur plus de la moitié de son corps.
Oh.
Elle va passer les 6 prochains mois dans le coma puis ensuite elle va vivre 2 ans de souffrance vraiment intense. Elle a eu des greffes de peau partout sur le corps puis il y a plusieurs membres de sa famille qui lui font des dons d'épiderme.
Oh my God.
Dont Monica, son père, son frère puis son oncle. Fait qu'elle a comme des bout de peau de tout le monde.
Ouais.
C'est vraiment triste.
Ben, elle survit, puis...
Oui, elle survit, okay. Ouais. Puis dans le... Je sais pas si c'est sa personnalité, mais dans le film, si vous l'avez, où elle fait partie du film, puis genre, tu sais, il y a des gens qui regardent sa peau, mettons,
uh-huh.
Puis elle s'en fout, elle est comme, OK, qu'est-ce que tu regardes?
Mm-hmm.
C'est vraiment comme à l'aise, puis elle est vraiment survécue à tout ça, puis elle est vraiment combattante. Mm-hmm. Puis elle voulait pas mourir, apparemment, à l'hôpital et tout. Dans certains articles de journaux, on lit que l'incendie a été causé par la fournaise qui a explosé. Selon la sœur de Monica, c'est dû à l'huile que son père avait répandue sur le plancher puis qu'il n'avait pas ramassé. Mm. D'autres disent que c'était un incendie criminel causé par un homme qui en voulait au père de Monica. Bref, à ce jour, on ne connaît pas la cause de l'incendie qui a causé la mort de 5 membres de la famille.
Mm.
4 ans après la tragédie, en 1962, Anthony Smith, le mari de Monica, se fait arrêter pour être illégalement entré au Canada.
Oh non!
C'est pas la première fois qu'il se fait arrêter pour ça, mais cette fois-là, c'est récidive, fait qu'il est expulsé dans son pays. Il retourne en Écosse. Monica se retrouve donc toute seule avec 2 enfants, puis ses frères et sœurs qui prennent soin. Donc, encore une fois, elle se laisse pas abattre. Elle continue de survenir à sa famille, puis c'est là qu'elle rencontre son deuxième mari. Viateur Tessier.
Il fait quoi, lui?
Comme ben, métier. C'est pas un doux non plus. Hein.
Non, c'est ça.
C'est aussi un voleur de banque.
Bon.
Classique. Viateur connaît très bien aussi Anthony Smith, avec qui il a fait quelques vols déjà.
Okay.
Ils se connaissent. Monica et Viateur se marient au milieu des années 60. J'ai pas la date exacte. Puis ils déménagent à Repentigny, dans une petite maison de banlieue bien tranquille, avec les 2 enfants de Monica, que Viateur élève comme les siens.
Mm-hmm.
Puis ils ont ensuite un fils ensemble qu'ils appellent Gilles Tessier.
Ah oui.
Celui qu'on connaît. Monica et Viateur effectuent plusieurs vols en armée ensemble. Ils commencent aussi à travailler avec les frères Robert et Gérald Lelièvre, qui viennent du Saguenay, mais qui sont venus s'installer à Montréal. La rumeur dit que Gérald et Monica entretiennent une relation amoureuse.
Ah.
Rumeur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Malheureusement pour Monica, Viateur se fait aussi arrêter pendant un vol. Il écope de 15 ans de prison.
Oups.
Pas chanceuse, la fille. Mais en même temps,
elle
date des voleurs de banque.
Ouais, c'est ça.
Elle se retrouve encore une fois de plus seule avec 3 enfants.
Mm.
Et c'est là que sa carrière de cambrioleuse prend de l'ampleur. Elle trouve le calepin de Viateur dans lequel il y a des notes sur plusieurs banques qui ont du potentiel à être cambriolées. Jackpot. Elle est comme, va le faire tout seul. Fait que là, elle appelle les frères Lelièvre pour tenter de monter un coup, tu sais, elle a besoin d'argent. Mais ils font pas vraiment confiance. Fait qu'elle décide de faire un vol toute seule. Qu'elle fait le vol toute seule. Succès, ça marche. Quelques jours plus tard, le braquage réussi est affiché dans les journaux. Puis on parle peut-être que ce serait une femme qui l'aurait fait, mais ils sont pas sûrs, les journaux. Donc là, Gérald, il appelle Monica, puis il dit « Est-ce que c'est toi qui as fait ça? » Là, Monica, vraiment fière, comme « Oui. » Donc là, ils font comme « OK, on va
t'aider. » T'es une femme, mais OK, ouais. T'es peut-être capable.
C'est ça. Évidemment, cette décision-là va changer leur vie. En juillet et en août 1967, Monica fait la une de tous les journaux. Le Journal de Montréal, La Presse, The Gazette, The Montreal Star, Allo Police, name it. On parle de la gang de voleurs menée par une femme. C'est un journaliste de The Gazette qui lui donne son surnom de Machine Gun Molly, qui sera traduit par Monica la mitraille.
Mais à ce moment-là, ils ne savent pas que son nom, c'est Monica, en fond?
Parce... Ils savent que son nom, c'est Monica.
Ah ouais?
Ouais, mais ils ne savent rien d'autre.
OK.
Okay. C'est un peu plus tard que ça sort. Okay. Monica et sa gang, ils ont commis à date une vingtaine de vols à main armée, tous dans des caisses populaires en genre 3 mois. Toujours armée de mitraillettes. Mm-hmm. Bien évidemment. Monica, elle, a trip. Elle aime ça que les gens parlent d'elle. Elle aime son nouveau surnom. Elle aime le fame, la célébrité. Donc, c'est maintenant une vedette au sein des médias et du grand public, mais aussi au sein de la communauté criminelle parce qu'elle réussit tous ses vols. Elle ne se fait jamais pogner. C'est vraiment impressionnant. Donc, à l'été 67, Monica, c'est la femme la plus recherchée du Québec. Et ça, c'est très frustrant pour les policiers parce qu'ils n'arrivent pas à l'attraper. Ils ne savent pas physiquement à quoi elle ressemble. Ils se sentent nargués, non seulement par des vingtaines de vols irrésolus, mais en plus, le chef du clan, c'est une femme.
C'est quoi, elle se met genre une cagoule sur la tête?
J'arrive.
OK.
Donc, dans les années 50-60, on s'entend que les policiers ont une mentalité très patriarcale, pour pas dire macho. Donc, de pas être capable de pogner une femme qui fait vol après vol en dessous de leur nez, extrêmement frustrant.
Mm-hmm.
Surtout que la ville est au courant puis qu'on en parle tout le temps dans les journaux. Donc, les policiers la surnomment même affectueusement et très ouvertement la chienne. Vers la fin juillet, là, les journalistes, ils découvrent c'est qui, Monica Proietti. Oh. Ils connaissent son prénom, mais là, ils connaissent son nom de famille. Donc là, ils publient dans les journaux des informations concernant sa vie personnelle. Et c'est très détaillé. Ouais. Ils montrent des vieilles photos d'elle en bikini. Ils montrent plein d'affaires. Ils parlent de ses maris qui sont en prison, de ses enfants. Bref, il brosse un portrait très négatif de Monica. Entre autres, il est écrit que Monica a l'habitude de faire ses vols avec ses enfants sur la banquette arrière de la voiture.
Ce qui est faux.
Ben, dans la série documentaire, Gilles Tessier dit que c'est faux. Il dit que sa mère, elle mettait des poupées avec des perruques dans les sièges d'auto comme pour faire diversion.
Okay, ouais. Pour avoir l'air d'une petite mère de famille tranquille.
Ouais, c'est ça. Mais en même temps, Gilles Tessier, il avait 18 mois quand c'est arrivé. Fait... Je sais pas. En tout cas, bref. Monica commence alors à se déguiser lors de ses vols.
Mm-hmm.
Elle tricote elle-même ses cagoules, puis elle porte différentes perruques en dessous. Elle finit même par se couper les cheveux vraiment courts pour que ce soit plus facile de mettre ses perruques.
Ouais.
Tu sais, quand tu fais tellement de vols, tu mets tellement de perruques que tu dis « ça va être plus simple si je me coupe les cheveux vraiment courts ». Fait très intéressant, à l'époque, les vols de banque sont vraiment fréquents parce qu'ils sont très faciles à effectuer. Tous les jeudis, il y a des centaines de personnes qui vont déposer leur chèque de paye pour avoir de l'argent comptant. C'est comme ça que ça marchait à l'époque. Ça veut dire que les coffres des banques puis des caisses sont pleins à craquer à tous les jeudis.
Ouais.
On parle d'à peu près 200 000 à 400 000 $ comptant par établissement. Pour les voleurs, c'est attrayant, puis ça, la police le sait.
Mm-hmm.
Fait que c'est pour ça que les policiers sont armés de mitraillettes et les voleurs aussi. Pour ça qu'il y a beaucoup de shooting puis de fusillades, parce qu'ils savent qu'à tous les jeudis, c'est là que le cash sort. Ce qui est très logique.
Thumbtack presents the ins and outs of caring for your home. Out. Uncertainty, self-doubt, stressing about not knowing where to start. In. Plans and guides that make it easy to get home projects done. Out. Word art. Sorry, live, laugh, lovers. In. Knowing what to do, when to do it, and who to hire. Start caring for your home with confidence. Download Thumbtack today.
En août 1967, Monica est toujours impossible à attraper. Les policiers réussissent toutefois à relier un vol à la relier à un vol de voiture.
Okay.
Pas rapport avec les vols de banque, mais... Donc, ils contactent Monica, puis ils disent qu'elle doit se présenter au poste de police de son quartier pour signer une promesse de comparer. Donc, elle contacte son avocat, Maître Léo-René Maranda, qui lui conseille de s'y rendre de bonne foi. Donc, elle se présente au poste, puis elle signe le papier. Et c'est là que les policiers peuvent enfin voir le visage de Monica. À sa sortie du poste, Monica a le sentiment que c'est bientôt la fin de sa carrière. Dans la semaine du 28 août, elle prépare ce qu'elle appelle son dernier coup. Elle se rend chez sa sœur pour lui emprunter des valises, puis elle dit qu'elle part en voyage en Floride avec ses enfants. Sa sœur est au courant de ce que Monica a fait qu'elle craint pour sa vie. Elle la supplie d'arrêter de faire des vols, puis elle lui dit même qu'un jour, elle se ferait tuer. Monica la rassure en lui disant que c'est la dernière fois, puis qu'après ça, elle s'en va en Floride. Elle n'entendra plus parler. Le 18 septembre 1967, au soir, donc la veille du dernier vol de Monica que je vous ai raconté en introduction, Claude Poirier reçoit un appel.
Oh my God!
Bon, pour Poirier, les Québécois-Québécoises qui vivent en dessous d'une roche, ou pour les gens d'ailleurs, Claude Poirier, c'est le négociateur de prise d'otage puis d'enlèvement au Québec. Et c'est donc comme l'intermédiaire entre les autorités puis les bandits, en gros. Mm-hmm. Il est aussi chroniqueur judiciaire. Puis, il compte aujourd'hui plus de 60 ans de carrière. Donc, il est encore très actif.
Dans tous les dossiers. Il est tout le temps là.
Dans tous les dossiers. Donc, Claude Poirier reçoit un appel d'un policier qu'il connaît bien. Et là, le policier lui dit, et je cite, « Je prépare quelque chose. Demain matin, rends-toi dans le coin de Pineuf puis de Jean-Talon, puis écoute les fréquences radio de la police. Oh. Tu vas entendre de quoi. »
Okay.
Et ça, c'est Claude Poirier lui-même qui le dit dans le documentaire « Maman la mitraille
».
C'est lui-même qui dit ça. Source très sûre. Donc, le matin du 19 septembre 1967, Claude Poirier se rend dans l'est de la ville. Il est curieux. Il ouvre la radio, puis il attend. Après quelques minutes, il entend. La chienne vient d'embarquer avec ses gars dans la voiture. Puis là, Claude sait très bien c'est qui la chienne. Donc, il comprend que Monica vient de faire un vol à la Caisse populaire de Saint-Vital. Il en parle ouvertement sur les radios. Ils disent que les policiers sont en pleine poursuite, que Monica est là avec deux gars. Claude Poirier se rend sur P9, puis il essaie de les trouver, de les suivre. Et là, il entend la radio. L'autobus va bloquer le chemin.
Oh!
Puis une minute plus tard, il entend « ça vient de frapper ».
Hey! OK, c'était par exprès qu'ils ont mis un bus là. Hey!
Et ça, c'est tout Claude Poirier qui dit ça, là. À l'écouter, c'est lui qui dit ça. Donc, quand M. Poirier arrive au coin de Dickens, a.k.a. Villeray, et P9, il voit un autobus avec une voiture complètement écrasée sur le côté, puis le corps inerte et dénudé de Monica étendu sur l'asphalte.
Dénudé?
À l'extérieur de la voiture.
Hein? OK.
Donc, quand je vous ai raconté la scène au début de l'épisode, j'ai mentionné que Monica était derrière le volant de la voiture quand elle a percuté l'autobus.
Ouais.
Et là, son complice se sauve et Monica est toujours en vie. Toujours assise du côté conducteur.
Ouais.
À l'arrivée des policiers, elle a une fracture du crâne, elle a le foie perforé, mais elle n'est pas morte.
Mm-hmm.
Donc, pourquoi elle est maintenant décédée, à moitié nue, étendue sur le sol à l'extérieur de la voiture?
Ouais.
C'est le sergent Gérard Boisvert qui est le premier arrivé sur les lieux avec son partner Gilbert Dorion. Et le sergent Boisvert, il s'approche de la voiture quand Monica percute l'autobus. Les portières sont ouvertes. Il voit Monica. En cours, il a dit, et je cite, « Quand je me suis approché de l'auto, je l'ai aperçue sur le siège avant. Elle a bougé, votre honneur. J'ai tiré. »
OK.
Donc, c'est lui qui l'a tiré.
Lui qui a tiré sur la femme en sang à moitié morte.
Exactement.
Il a eu peur.
Il a tiré deux fois dans la poitrine. Une fois dans la poitrine, une fois dans le cœur. Et il dira ensuite en cours, et je cite, « J'ai peut-être tiré un peu vite. Et depuis, je me suis souvent demandé si j'aurais pu faire autrement. me cacher derrière ma voiture et attendre un peu. Mais okay. Mettez-vous à ma place dans le feu de l'action et rappelez-vous que le gars qui était avec elle avait tiré sur moi au moins une demi-douzaine de fois avec un fusil de calibre 12 à canon scié. J'avais peur et tout s'est passé trop vite.
Ouais. Je comprends.
Je peux comprendre.
Je peux comprendre. Ouais.
Mais quand t'ajoutes Claude Poirier, ce qui a entendu, ouais. L'appel, puis tout, tu sais, c'est louche. Donc, le partner de Boisvert, qui était aussi sur place, Gilbert Dorion, a dit en cours, et je cite, « Après que le sergent Boisvert ait tiré, je me suis approchée. J'ai vu la femme, Monica, assise sur le siège avant de la Plymouth 67. Elle nous regardait. Elle saignait beaucoup à la poitrine et, avec sa main gauche, elle défaisait les boutons de sa chemise. »
OK.
Et puis, ses paupières ont battu très vite et elle est tombée à la renverse. Tout le haut de son corps a glissé en dehors de l'auto par la portière du côté du chauffeur qui s'était ouverte au moment de l'accident. Et le sang a continué de couler. J'ai fait le tour de l'auto. Je me suis approchée d'elle. Elle avait les yeux ouverts. Je l'ai vu lâcher son dernier soupir, votre honneur. Donc ça, ça explique pourquoi elle serait tout nue et à l'extérieur de la voiture.
Parce qu'elle a enlevé sa veste.
Elle se serait déshabillée toute seule, puis elle serait comme tombée à l'extérieur de l'auto.
C'est quand même
toute seule.
Bizarre.
C'est...
un peu tiré par les cheveux.
Dès le lendemain, la ville au complet parle de la mort de Monica Lamitraille. Dans le Allo Police, la page couverture montre la photo aujourd'hui célèbre de Monica qui est étendue par terre, morte, les seins presque à terre, avec un trou de balle dans la poitrine. Je vais te la montrer.
Je pense que je vais pas la publier.
C'est ça.
Aïe, aïe, OK.
Tu sais, et tu vois aussi, la, mettons, plus agrandi, là, tu sais, le nombre de gars qui est autour.
Aïe, aïe, OK.
Je peux pas la publier parce qu'elle est tout nue, mais... Ben, pas ouais, tout nue, mais... Parce qu'on pense que, tu sais, ça, c'est le trou de balle.
Hein? Okay.
On pense que c'est son mamelon, mais c'est.
Oui, c'est ça, de loin, je pensais que c'était ouais, son mamelon.
Okay. Pour ça, je l'ai mis en plus grosse.
Bon, si vous êtes curieux, sûrement que ça se trouve facilement.
Oui, là, ça ouais. Se trouve très facilement. Mais il montre beaucoup de fois dans le documentaire okay. Maman la mitraille. C'est d'ailleurs un screenshot.
Ah, OK.
Ce que je te montre en ce moment.
un screenshot de
Maman la mitraille. Donc, et cette photo-là que je suis en train de montrer, c'est très graphique, on s'entend.
Oui.
C'est un corps mort dénudé d'une femme dans le milieu de la rue. La une du journal Allopolis, là. Front page.
Ah oui, à cette époque-là, no shame.
No shame.
Des cadavres, en veux-tu, en bleu.
Ah ouais. Puis tu vois, j'ai vu les archives à la banque. Tu vois, il y a comme la photo d'elle. Après ça, il y a une photo de son corps étendu par terre. Et il y a une photo d'elle en bikini à côté.
Oh my God. Genre,
écoute. C'est ça que j'avais écrit après. On voit aussi combien de personnes, devrais-je dire, d'hommes. Observe son corps inerte sur le sol. Il porte... Et si on porte bien attention, on voit même qu'il y a un policier qui tient la tête de Monica avec son pied.
Hein?
Tu vois-tu?
OK, ouais.
Pour la photo. Pour qu'on voit bien que c'est Monica la mitraille.
Hey, c'est comme un trophée, préservation genre. De la scène de crime.
Zéro. Ouais, zéro. Puis c'est son proche, là, les messieurs. Ils sont vraiment proches d'elle. Bref, la scène est vraiment horrible. Tu vois même quand Monica, le corps de Monica est couché sur le sol. Il y a une couverture qui est par-dessus son corps, puis elle remorque juste à côté qui est en train de remorquer l'auto.
OK.
Genre, le corps est encore là. Puis il y a une centaine de personnes autour. Allez. Les photos, c'est quelque chose. Allez écouter le documentaire, vous allez tout voir les photos. Je peux pas les partager parce que c'est très graphique. Vous comprendrez. Bref, la scène est vraiment horrible. Le décès de Monica Proietti est constaté le 19 septembre 67 à 15h. L'autopsie. Le lendemain, à la morgue de Montréal sur la rue Notre-Dame, c'est la sœur de Monica qui a la lourde tâche d'aller identifier son corps. C'est ce qu'elle voit, elle dit que ça va la hanter tout le reste de sa vie. Le corps de Monica est tout jaune, puis elle a une entaille à partir du cou jusqu'en bas du nombril qui a été recousue tout croche avec du gros fil noir. Le docteur qui a procédé à l'autopsie explique que l'entaille a été faite pour aller chercher les balles de fusil qui étaient prises au fond du corps.
OK.
Puis, la peau jaune est due à une jaunisse qui a commencé après la rupture du foie de Monica qui a été causée par le choc du volant de la voiture quand elle a percuté l'autobus. Dans son rapport, le médecin légiste écrit que Monica a 6 blessures au total. Elle a 4 plaies par balle, 2 entrées, 2 sorties, un bleu au front sur le côté gauche, puis elle a une rupture du foie. Il y a une balle qui a causé des blessures mineures en traversant le sein droit sans pénétrer le thorax, celle qu'on voit sur la photo. Mm-hmm. Mais la balle fatale, c'est celle qui a pénétré le thorax à gauche puis qui est sortie par le dos à droite en traversant les deux poumons puis en sectionnant l'aorte.
Ah ouais.
On s'entend que tu ça, peux pas survivre à ça.
Tu t'en remets pas.
Pour ce qui est de la rupture du foie, c'est une déchirure superficielle. Le médecin écrit ça, citation. Mm-hmm. Déchirure superficielle et sans gravité de la substance même du foie qui a causé une petite hémorragie dans la cavité abdominale.
Okay.
Le jour même, je vais t'expliquer un peu plus tard pourquoi je te dis. Le jour même, le coroner a conclu à une mort violente sans responsabilité criminelle. Il faut dire que les rapports d'autopsie d'autrefois étaient un peu moins détaillés slash sérieux qu'aujourd'hui. Mm-hmm. La preuve, c'est que dans le rapport de Monica, son nom s'est écrit Troietti. Avec un
T. Il n'a même pas écrit le bon nom.
Non. Les funérailles de Monica ont lieu le samedi, donc 4 jours après sa mort, au salon funéraire de la Rachel, qui est plein à craquer. Elle était vraiment aimée, Monica.
Mm-hmm.
Apparemment que dans son cercueil, Monica est méconnaissable. Ses propres enfants ne la reconnaissent même pas.
Oh, ouais.
Elle porte une perruque. C'est weird. Donc, puisque le rapport indique clairement que c'est la balle tirée par l'officier de police et non l'accident qui a tué Monica, il y a une enquête et un procès qui doivent avoir lieu.
Mm-hmm.
Malheureusement pour la famille Proietti, l'enquête est très ordinaire. Presque personne n'est convié à un interrogatoire après le décès de Monica. Aucun membre de sa famille, aucun témoin qui était là, aucun expert, aucun chef de police.
Tu m'étonnes. Une enquête sur la police dans les années 60, ça ne va pas...
Exactement. Avec là, tu sais, il y a une importante question qui se pose. Est-ce que la mort de Monica aurait pu être évitée? Et surtout, est-ce qu'elle était planifiée? C'est ça qu'on se demande.
Ouais.
Ma prochaine section s'appelle « Intervention policière louche ». Comme l'a dit Claude Poirier dans le documentaire, ça semble comme pas normal qu'il y ait eu autant de policiers dans Montréal-Nord ce matin-là.
Oui, il savait.
Parce que dès que lui est arrivé sur place, il dit dans le documentaire, il y avait une tonne de policiers qui étaient déjà là. Puis ça faisait quelques secondes que c'est arrivé. Quand quelques policiers d'autres postes de Montréal-Nord qui sont interrogés sur leur présence sur les lieux, ils disent tous que c'était un hasard.
Mm-hmm.
Voilà.
Puis, mettons, le bus, là, il n'y avait pas de passagers dedans?
Ah, tu vois, je sais pas. Ça le dit nulle part, ça.
S'il n'y avait pas de passagers dedans, c'est clairement genre, il était juste prévu pour bloquer le chemin. Alors que s'il y avait des passagers dedans, ben, il y aurait probablement eu des blessés. Ou,
ben, ah, peut-être. J'y ai même pas pensé à ça. Ça le dit nulle part. Ça parle nulle part de l'autobus. Puis l'autobus est quand même amoché, là.
Ouais.
Mais tu sais, les autobus, dans le temps, t'étais assis comme en haut.
T'es pas assis un peu plus haut.
Aujourd'hui, les autobus, tu rentres puis t'es au niveau du sol. Ouais. Mais tu sais, ceux de notre époque se rappellent. C'était comme un autobus scolaire. T'sais, tu montais des escaliers puis t'étais en haut.
Ouais.
Parce que l'autobus, je l'ai vu puis les fenêtres sont en haut.
Ils sont plus hautes. Okay.
Fait que je pense qu'il y aurait personne qui aurait été blessé parce qu'elle était dans une voiture. Des fois, j'ai l'impression qu'on vient d'une autre époque, qu'on a vécu les autobus de ville qui se montaient.
Ouais.
Je me sens bien. En cours, il y a un sergent détective qui était sur les lieux qui témoigne sur les coups de feu qui ont été tirés après l'accident de voiture de Monica. Il dit, et je cite, « J'ai tiré après que les détonations sont venues de l'automobile. À la deuxième détonation, la vitre n'existait plus. Je me suis avancée, elle bougeait plus. Gilbert Dorion a vu le dernier souffle. Quand il l'a vue, elle était encore vivante. Elle est morte une couple de minutes après. » Fait que, tu sais, ça montre qu'il y a juste plusieurs policiers qui étaient là juste pour backer lui qui a tiré.
Ouais.
Bon, on fait aussi témoigner le coroner. Le coroner dit, « Du côté gauche du foie, il y avait une petite déchirure de la substance même du foie de son bord et... près de son bord et qui avait causé une petite hémorragie dans la cavité abdominale. On lui demande, est-ce que c'était une blessure mortelle? Il répond, en général, ce genre de blessure n'est pas mortelle parce que l'hémorragie n'est pas assez importante et avec traitement dans un hôpital, ces malades peuvent être certainement sauvés.
Mm-hmm.
Conclusion, si Boisvert ne l'avait pas tiré, elle ne serait pas décédée.
Ouais.
C'est assez facile à conclure.
Mm-hmm.
Dès que l'annonce de la mort de Monica Lamitraille est faite dans les journaux, tous les médias se donnent à cœur joie. Et là, ils glorifient son nom pour fabriquer ce fameux personnage de la culture québécoise tant connu aujourd'hui, Monica Lamitraille ou Machine Gun Kelly. L'année suivante, En 1968, le réalisateur Claude Fournier et Jean-Pierre Lefebvre travaillent sur un projet de long métrage pour parler de la mort de Monica.
OK, direct. Ouais. C'est rapidement après.
Par contre, Claude Fournier dit que lorsqu'à ça s'est su, il a reçu un appel qu'il convoquait à un rendez-vous à l'auberge Saint-Gabriel. Et il dit, et je cite, « Au meeting, il y avait deux ou trois personnes que je connaissais pas, des gros gars. On m'a demandé gentiment de plus travailler sur ce projet-là. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit que dans la famille de Monica, on préférait qu'il n'y ait pas de film ou quoi que ce soit d'autre. »
Ah, OK.
Fournier a abandonné son projet.
Ah, ouais, c'est la famille qui voulait pas.
Ben, des Italiens, liés avec la mafia.
Ouais.
Tu veux pas,
mettre trop de lumière là-dessus. C'est ça.
La même année, il y a une comédie musicale, Monica la mitraille, qui a été de Michel Conté et de Robert Gauthier, qui est jouée à la Place des Arts de Montréal, avec en vedette Denise Filiatreault, dans le rôle de Monica. On annonce 30 représentations du 3 au juillet au 4 août 1968. Cependant, à la troisième représentation, le producteur déclare faillite puis arrête subitement la pièce.
Oh.
Cet arrêt de production est dû aux efforts du père et de l'oncle de Monica, apparemment, qui ont tout fait pour retirer la pièce de l'affiche.
Oh, ouais.
Il y a juste un CD qui a été enregistré avec toutes les chansons de la comédie musicale, mais toutes les représentations ont été annulées.
OK.
En 92, il y a Dan Bigra qui a écrit une chanson qui s'intitule « Monica la mitraille ». Et il était vraiment sur bord. Je te lis un extrait avec quasiment la toune au complet, mais ça dit « La misère, elle en a eu assez. Sa colère finit par éclater. Quand tout manque, on n'a qu'à se pencher. Dans les banques, on n'a qu'à ramasser. Laissez-moi voler avant de me briser les ailes. Laissez-moi tirer avant de m'assassiner. Ce soir, je veux être belle pour mon premier hold-up au ciel. » Monica la mitraille, pourquoi t'a-t-on fait ça? Monica la mitraille, non, tu méritais pas ça. Machine Gun Molly, elle allait chercher l'or et l'argent où il est sans faire couler le sang. La police n'aime pas les brigands qui lui glissent entre les doigts trop souvent.
Ah.
Chose ça décrit quand même bien. Oui. Ben, c'est vrai qu'elle avait une mitraillette, mais elle n'a jamais tiré sur personne.
Non, c'est ça, elle n'a jamais blessé personne.
Non. Et ensuite, en 1994, le livre que je mentionne plusieurs fois, Georges Hébert Germain, est sorti. Et en 2004, le film Monica la mitraille, réalisé par Pierre Houle, il a fait une grande sortie cinématographique. Pardon. Le film met en vedette Céline Bonnier, Roy Dupuis, Patrick Huard et Isabelle Blais. Quand même des gros noms. C'est vraiment bon, le film.
Puis là, ça faisait assez longtemps que la famille
c'est ça, trouvait ça correct. Ben, le film est non autorisé par la famille.
OK.
Mais il crée même beaucoup de disputes familiales, apparemment. Puis même des poursuites venant des sœurs de Monica pour cesser la diffusion du film. Mais ça ne fonctionne pas.
OK.
Céline Bonnier a dit que la sœur de Monica était sur le plateau de tournage quelquefois. Puis elle dit, c'est quand même gênant de jouer sa sœur devant elle. Ça, c'est vraiment touchant. Elle dit que la scène où elle meurt était là.
Ah ouais.
Puis elle dit que c'est vraiment touchant de voir. Mm. Bref. Et donc, tout ce que je viens d'énumérer fait en sorte que Monica, c'est encore un sujet discuté aujourd'hui. C'est même pourquoi j'en fais un épisode de podcast aujourd'hui. Et c'est pas tout parce que je voulais parler un peu de l'héritage criminel de Monica Proietti, qui continue encore aujourd'hui, entre autres à cause de ce qu'on appelle les facteurs criminogènes.
OK.
Donc, dans le balado criminel, la criminologue Lynn Morin, elle parle de facteurs criminogènes. Ce sont des éléments qui contribuent au développement de la criminalité chez une personne. Donc, chez Monica, les facteurs criminogènes qu'elle décrit sont, entre autres, la pauvreté, une famille dysfonctionnelle, le stress, puis les relations amoureuses.
Puis, l'école du crime.
Ben, c'est ça. Une famille dysfonctionnelle. Si, genre, grand-maman.
Aller faire ta scolarité, tu vas à l'école du crime, mettons que ça te prédispose.
Il y a ça. Écoutez, c'est ta grand-mère comme, let's go, ma fille. Oui, grand-maman. Donc, c'est ça. Elle dit, Les Morin, elle dit qu'une femme qui a un conjoint délinquant va souvent l'accompagner dans ses délits. Mais ça fonctionne pas dans l'autre sens. Donc, si la femme fait des délits, apparemment, l'homme va pas la suivre, non. Donc, les conjoints délinquants de Monica ont joué un très grand rôle dans sa criminalité, on s'entend.
Ouais, c'est sûr.
Aussi, la famille de Monica a exercé une grande influence sur sa criminalité. Donc, il y a son grand-père, son père, son oncle, ses frères et ses maris qui ont tous fait de la prison. Et on s'entend que c'est probablement là qu'elle s'en allait aussi.
Oui,
si elle n'avait pas été tuée. Ouais.
Elle serait allée en prison.
Exactement. Et malheureusement, Monica a aussi transmis ses facteurs criminogènes à ses enfants, du moins à deux d'entre eux.
OK.
Donc, après le décès de leur mère, Anthony Junior, 6 ans, et Ginette, 8 ans, ils sont envoyés en Écosse pour vivre avec leur père, Anthony Smith. Ils reviendront au Québec tous les deux plusieurs années plus tard. Anthony Junior a suivi les traces de ses parents, puis il est devenu aussi cambrioleur de banque. Il a fini par se faire arrêter, puis écopé de 12 ans de prison. Et il est mort d'un suicide par overdose le 3 septembre 2004.
Ah oui.
Ginette, à l'âge adulte, elle fait le choix de ne pas suivre les traces criminelles des membres de sa famille. Elle fait des études, puis elle se trouve un emploi, ironiquement, dans une caisse populaire. Qu'elle ne cambriole pas, je tiens à spécifier. Elle refait sa vie loin de Montréal, à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, puis elle se marie. Elle a une fille du nom de Cathy. Et malheureusement, Cathy, elle a des gros problèmes de santé au niveau des poumons, puis elle est aussi trisomique. Fait que Ginette s'occupe vraiment à temps plein d'elle. Puis dans le documentaire, elle dit même que c'est quasiment ça qui l'a sauvée de la criminalité, parce qu'elle s'occupe de sa fille. Pour ce qui est du troisième enfant de Monica, Gilles Tessier, lui, il n'a pas eu la chance de vivre avec son père quand Monica elle a été tuée parce qu'il était en prison.
Ouais. Il s'est retrouvé pas de parents.
Donc là, lui, ben, c'est spécial. Il a eu une enfance vraiment weird. À la mort de Monica, il a 18 mois. C'est un bébé. Son frère et sa sœur partent vivre en Écosse. Puis lui, il reste dans la maison familiale de Repentigny. Et là, ce qui est weird... C'est qu'il y a une famille qui est mandatée par le gouvernement ou je sais pas par qui, un organisme, whatever, pour aller s'installer dans la maison de Repentigny puis s'occuper de bébé Gilles.
OK.
Ce qui est... Je comme pense mon pas
famille
qu'il se fait
d'accueil, mais la famille d'accueil vient chez eux.
C'est ça.
OK.
Et là, cette famille, elle prend le petit sous leur aile et l'élève dans la joie et dans le bonheur jusqu'à ce qu'il ait 5 ans. En 1971, il y a une nouvelle famille qui débarque. Je ne sais pas pourquoi. Ils switchent. Et là, le calvaire de Gilles commence.
Oh non.
Il perd sa chambre. Il doit maintenant dormir dans un garde-robe. Il n'a pas le droit de manger à table avec les autres. Tous ses objets personnels disparaissent. Puis la cerise sur le sundae, c'est qu'il se fait battre constamment par son faux père. Dès l'âge de 7 ans, Gilles il commence à se rebeller. Puis il fait des vols, comme sa mère. Mais l'ironie dans tout ça, c'est que Gilles, il pense que les parents qu'il maltraite, c'est ses vrais parents.
Il sait même pas que sa mère, c'est Monica.
Il n'a aucune idée de c'est qui sa vraie famille. C'est à l'âge de 13 ans que son travailleur social lui apprend c'est qui sa vraie mère.
Aïe, aïe.
Son père, Viateur, sort de prison, puis il revient s'installer dans sa maison à Repentigny, donc la famille d'accueil quitte. Enfin.
Bon, enfin, il y a son
vrai
père.
Oui, Gilles, il dit le jour du départ de sa fausse famille horrible, la mère, elle lui dit... J'étais pas payée pour t'aimer, j'étais payée pour te garder.
Ah. Fait que tout ce temps-là, il savait pas que son vrai père existait puis qu'il était pas loin en prison.
Non.
Qu'il aurait pu aller le visiter, qu'il aurait pu. T'sais.
Non.
Oh my God.
Puis il l'a jamais vraiment connu, son père. Parce que Gilles est perturbé par ce gros changement-là. Il fait beaucoup de recherches sur sa mère, quand il apprend c'est qui sa mère, puis sur les membres de la famille Proietti. Il découvre qu'il y a quelques cousins, cousines, tantes et oncles qui habitent encore à Montréal. Ils habitent dans une ruelle. Paul Pot à Tétroville.
Okay.
Et quand Viateur revient vivre à la maison, il veut que Gilles aille à l'école. Puis Gilles, il veut rien savoir d'aller à l'école. Il n'est jamais allé à l'école. Fait qu'il refuse, puis il fugue.
Okay.
Puis il ne reverra jamais son père.
Ah ouais. Fait qu'il l'a pas connu.
Finalement. Il l'a pas connu du tout. Okay. Même dans le documentaire, il voit... il se demande s'il est décédé ou pas. Puis il voit, à un moment donné, la tombe de son père.
Okay.
Fait qu'il comprend qu'il est décédé. Bref. Gilles se réfugie chez sa tante, donc la sœur de Monica à Tétroville. Et là, chez ma tante, c'est le gros party. C'est le free-for-all. Il n'y a pas de règles. Les enfants, ils font ce qu'ils veulent, au grand plaisir de Gilles, qui devient de plus en plus délinquant. Apparemment, qu'il vole dans tous les logements de ses voisins. À 16 ans, il vole dans une bijouterie. Puis, à 10 ans, il dit avoir volé dans tous les Radio Shack du Québec. il collectionne les délits, vente de stupéfiants, vol à main armée et même violence envers les femmes. Il consomme alors beaucoup de cocaïne. Il mène une vie de criminel. Il se décrit lui-même comme la première scène du documentaire. Il dit que quand il était jeune, c'était le diable.
Oh ouais.
Tout simplement. Il fait de la prison à maintes reprises. in and out, in and out. Et à travers tout ça, il réussit à avoir 3 enfants, Megan, Molly et Maxime. Dans le documentaire, on voit 2 d'entre eux, Molly et Maxime. Et Molly, elle a le nom de...
Ah ouais, Molly. Ouais.
Machine Gun Molly. Et là, Molly, dans le documentaire, elle a beaucoup de rancœur envers son père qui est absent, puis elle dit qu'elle ne le connaît pas vraiment parce qu'il n'était jamais là. Elle fait de nombreuses dépressions qui ont mené à plusieurs tentatives de suicide. Elle dit que, bien qu'elle suit une thérapie, elle a toujours envie de pleurer. Elle raconte même qu'à 6 ans, son père il mettait des mégots de cigarettes dans la bouche parce qu'il trouvait ça drôle.
Ew.
C'est son genre de blague. Dans le documentaire, elle dit « C'est vraiment pas cool d'être sur Terre.
Oh. »
C'est vraiment triste regarder son témoignage, pour vrai, elle est adolescente. Quand on lui demande ce qu'elle pense de l'histoire de sa grand-mère, Monica Lamitraille, elle dit que ça ne l'intéresse pas du tout. Oh. Sa seule opinion est la suivante. « Si Monica n'avait pas été tuée, j'aurais sûrement eu un père. » Parce qu'il y aurait eu une mère.
Il y aurait eu une mère,
C'est vraiment triste à regarder.
Trauma générationnel.
Ah, ça n'a aucun sens. Pour ce qui est de son frère Maxime, lui, il suit les traces criminelles de sa famille.
Ah oui.
Il entre pour la première fois en prison à Saint-Jérôme en 2023 pour 15 mois pour possession de drogue. Il était avec son père quand il s'est fait arrêter. Puis Gilles avait aussi de la drogue sur lui. 14 grammes de poudre, pour être exact, dans ses poches. Donc, les deux ont fait de la prison. Selon Gilles, il a écopé de plusieurs mois en prison à cause de son héritage. Il dit, et je cite, « Ben, c'est ça qu'ils m'ont fait avec moi aussi la première fois. C'est pas nous autres qui jugent, c'est notre nom. C'est notre nom puis notre background.
» Ah, c'est sûr que ça doit avoir un impact négatif.
C'est sûr que non. De son côté, Maxime, lui, il éprouve aucun remords. Il dit qu'il ne se considère pas comme un criminel. Il dit, et je cite, « J'en ai rencontré une couple qui ont été pognées avec plus que moi, qui ont eu moins que moi comme sentence, puis ils sont récidivistes en plus. C'est ça qui me fait chier. C'était une sentence pour donner l'exemple avec quelqu'un qui n'a jamais fait de crime. Je trouve ça complètement stupide. Gilles raconte qu'en cours, la juge demande à Maxime pourquoi il devrait être remis en liberté, puis Maxime y répond, « Ben, j'ai un chat. » Même Gilles, dans le documentaire, il fait comme... Tu sais, il aurait pu dire, genre, je veux être une meilleure personne, je veux travailler sur moi. Non.
Non, j'ai un chat.
Bref, Maxime il a passé un dur 7 mois à la prison de Saint-Jérôme où il dormait sur des briques puis il se faisait battre.
Eh boy. Il est sorti... Saint-Jérôme, en plus.
Oui. Il est sorti 8 mois avant la fin de sa sentence, sous condition. Une de ces conditions-là, c'est qu'il n'a pas le droit de voir son père. Parce qu'ils se sont fait pogner ensemble. Clairement, une mauvaise influence.
Je pensais que tu allais dire qu'il n'a pas le droit de voir son chat.
Le juge qui est comme, moi, t'es un chat, hein? Non.
Excusez-moi.
Ça va être drôle. Malgré tout, Gilles, il y a quand même un dispositif qui ressort de tout ça. Il a arrêté de consommer en 2013, puis il semble vraiment vouloir être présent pour ses enfants. Il prend soin d'eux, puis il tente de réparer les relations qu'il a brisées. Il nie pas qu'il a été un mauvais père au début de sa vie, mais là, il travaille vraiment fort à tout réparer. Il dit que faire le documentaire « Maman la mitraille », ça marque comme la fin d'une histoire pour lui, la fin d'un chapitre. Il cherche à mettre l'héritage de sa mère derrière lui pour pouvoir avancer. Il dit « Ma mère ne m'appartient pas, elle appartient à l'histoire du Québec.
»
Ce que je trouve quand même vraiment bien dit.
Vraiment.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, son but, c'est vraiment de libérer la famille du fardeau que porte le mythe, la légende Monica la mitraille.
Ouais.
Qui est vraiment plus romancé puis intensifié qu'on pense parce que l'histoire
on l'a vraiment romancé comme c'est ça un peu comme une Robin des Bois genre tu sais comme
ben c'est qu'il y a tellement de versions différentes
cool dans ma tête tu sais je pense pas que j'ai vu le film mais tu sais dans ma tête Monica Lamitra est cool puis
ouais
parce qu'elle vole des banques puis elle est bonne puis tu sais ouais comme
ben tu sais dans le fond l'histoire de Monica Lamitra en une phrase c'est une femme qui est partie à moins 1000 d'envie, qui a juste vraiment essayé de s'en sortir, puis qu'elle a juste trouvé le premier moyen du bord. Tout ce qu'elle connaissait, c'était les vols de banque pour pouvoir libérer sa famille de la pauvreté.
Mais c'était clairement une femme vraiment brillante.
Oui.
Puis elle aurait, genre, si elle avait fait d'autres choses.
Ah oui, elle aurait
genre, été vraiment. Elle aurait vraiment eu du succès, probablement, tu sais.
100%. 100%. Fait que, tu sais, est-ce que son meurtre était prémédité, mon opinion, 100% oui.
Ouais, probablement. Là. Probablement que les policiers se sont dit si on. T'sais,
ben là, Claude Poirier.
La pogne,
il appelle Claude Poirier et dit il va se passer de quoi demain matin.
En plus que, tu sais, si.
L'autobus va bloquer.
Si. Mais comment ils ont eu l'information? Ça, on le sait pas.
De.
de où le vol allait avoir lieu, puis genre que la voiture, dans... la voiture de fuite était déjà surveillée, genre.
Je l'ai pas mis dans l'histoire parce que dans le livre, George Benjamin a dit que il était sorti la veille au bar où il allait tout le temps.
Ouais.
Puis elle l'avait dit, demain on fait Saint-Vital.
OK.
Puis Saint-Vital, dans le livre, il dit que c'est décrit comme la caisse populaire qu'il ne faut pas toucher parce qu'apparemment, autour de ce de cette, la caisse populaire, toutes les rues, c'est genre des one-way ou c'est des cul-de-sac, fait que c'est difficile de partir. Puis, tu sais, il y a comme plein de raisons pourquoi Saint-Vital est plus difficile que les autres à faire. OK. Fait que c'est pour ça qu'elle, son dernier coup, c'était celle-là. Elle voulait ça,
ouais.
Parce qu'il était difficile, puis ça voulait vraiment le réussir, puis faire comme partir sur un high. Fait que là, elle aurait dit la veille, demain, on fait Saint-Vital. Fait qu'il y aurait quelqu'un qui l'aurait entendu, puis il l'aurait vendu au policier. Parce que le getaway car, il était justement, il savait, il était où. Puis il y avait tellement de policiers. C'était sûr qu'elle s'en sortait pas. Fait que tu sais.
Puis ses complices, les deux gars.
Aucune idée ce qui leur est arrivé.
Si on fait de la prison ou pas, on sait pas.
Aucune idée. Dans le livre, il en parle un peu, mais encore là, ça, je suis vraiment pas certaine que c'est vrai.
OK.
Mais donc, je sais pas.
OK.
C'était l'histoire de Monica Lamitraille.
Ah, mais j'ai aimé ça. C'était vraiment intéressant.
Ouais.
Puis j'ai aimé ça, comme me plonger dans le Montréal des années
50-60.
C'est comme, c'est fou. À quel point c'est une autre ville.
Ah ouais, j'ai tellement vu d'images, puis de... Ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, là. Ça ressemble à le petit bout, coin Sainte-Catherine-Saint-Laurent, là.
Ouais.
C'est vraiment ce coin-là. Ouais. Ça ressemble à ça, mais partout.
Ouais.
Avec des taudis. Parce que je regarde, mettons, les maisons, les appartements, les escaliers qui montent. Mm-hmm. C'est tout. Ça, c'est quand même assez pareil.
Mm-hmm.
Mais, putain. Aujourd'hui, c'est les habitations, généralement, c'est quartier des spectacles. C'est vraiment nettoyé.
Là. Ouais, vraiment.
C'est vraiment plus ce que c'était. Mm. Thank God.
Ouais, c'est ça.
C'était une autre époque.
Ouais.
Tu sais, quand t'es dans un petit quadrilatère du quartier des spectacles, t'as 80 maisons closes puis 50 bars. Il y a un problème à quelque part. Bar de danseuse. Donc voilà.
Ah, oh, ben good job.
J'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment travaillé fort sur cet épisode-là. J'ai fini le livre ce matin avant de venir. Je voulais savoir s'il y avait comme des derniers détails. Ouais,
à savoir.
À savoir, parce que dans le livre, la mort de Monica, c'est genre les 20 dernières pages du livre.
OK.
Il faut que tu lises le livre au complet. Mais c'est vraiment intéressant, je vous conseille d'aller lire.
C'est quoi le nom du livre?
Monica Lamitraille.
OK.
Au début, ça s'appelait Souvenir de Monica quand c'est sorti.
OK.
Puis ça a été
réédité
en 2004, 10 ans plus tard. Aller voir le film. Je conseille surtout le documentaire Maman la mitraille.
Ouais.
Avec Gilles Tessier.
OK. On va demander notre mot de passe à nos parents.
Oui. Ceux qui ont hélico.
À nos parents boomers.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui.
Attends, j'avais un petit shout-out de fin. Ah,
vas-y donc.
Bon, je vais lire un petit message de Nancy qui dit « Allô les filles, je suis maintenant une adepte de votre podcast. Moi, c'est Nancy. Bien que je sois québécoise, c'est Carl de la Suisse qui m'a fait vous connaître. Allô, Carl!
Allô, Carl!
Maintenant, je vous écoute sur la route entre mes clients. Je suis représentante Québec, Beauce, Gaspésie, donc je fais beaucoup de routes. Je suis pas encore à jour, mais Carl, lui, je suis certaine qu'il est à jour. Un petit salut à nous deux, ça va le faire sourire à coup sûr. Tranche de vie, je suis présentement dans une auberge à Forion, une ancienne école, c'est grand et très peu occupé à ce temps-ci de l'année. Croyez-le ou non, je me suis retrouvée coincée avec deux filles de Saint-Jérôme. Je prends pas de chance, je barre ma porte de chambre à double tour.
Oh mon Dieu! La réputation de Saint-Jérôme,
horrible.
Oh, ça me fait rire. La ville la plus verte au Canada.
Oui.
On s'en rappelle.
Mm-hmm. Alors voilà!
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Passez une belle semaine.
À la bine prochaine.
Bye!
Bye! Crime de bine est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci, Binkou! Bye!